Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette 12e saison de Check-up Santé et prêt bien sûr pour accueillir toutes les personnalités qui font la santé d'aujourd'hui et de demain en France mais aussi ailleurs. Si vous faites partie d'ailleurs de cet univers qui me passionne et que vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à me contacter par l'intermédiaire de BFM Business ou par les réseaux sociaux. Je serai heureux de vous inviter sur le plateau de Check-up Santé. Pour cette première émission, je ne pouvais pas ne pas inviter l'économiste que tout le monde s'arrache. J'ai nommé Nicolas Bouzou, patron d'Asterès. Son regard sur notre système de soins séduit de nombreux acteurs santé et il est très 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 écouté. Parmi les problèmes auxquels est confronté notre système de santé, c'est la pénurie de professionnels de santé, entre autres. C'est la raison pour laquelle je suis heureux d'accueillir Christophe Dallet, qui est directeur de Danténor, la référence du recrutement en santé. Enfin, la santé, c'est aussi le bien-être. Et à l'occasion de la journée mondiale de la santé sexuelle, je reçois la licorne germano-britannique Love Money Group et sa représentante Verena Singman. Check-up santé, c'est reparti. Nicolas Bouzou, bonjour.
Bonjour Fabien.
Bon, vous êtes un habitué.
Ah oui.
Il n'y a pas de check-up santé sans Nicolas Bouzou. Pour la 12e saison. Ouais. Je crois que vous êtes venu
pas mal de fois.
Pas mal de fois.
Ans, ouais, je pense.
Alors vous êtes évidemment, on le dit, l'économiste du moment, patron d'Asterès. Vous êtes économiste évidemment tout terrain, très écouté sur les différentes chaînes d'infos, sur les réseaux sociaux. Mais vous avez aussi une expertise qui est reconnue dans le monde de la santé. Pour commencer, hein, juste en quelques mots, quand vous regardez notre système de soins, vous êtes plutôt satisfait, optimiste, pessimiste, désespéré, voire foudrage ?
Je suis pas satisfait, en tout cas, ça c'est certain, parce que je trouve que la qualité de la prise en charge s'est dégradée. Alors là, j'enfonce une porte ouverte, hein, pardonnez-moi, mais c'est particulièrement vrai dans le domaine hospitalier, où, au fond, il y a 10 ans, on pouvait dire l'hôpital n'a pas assez d'argent, il y a eu de la rigueur budgétaire, etc. Mais au fond, ce narratif exclusivement financier, il est plus tenable aujourd'hui, puisqu'on a considérablement revalorisé les budgets hospitaliers. Hein. On était, là, cette année, en 2023, plus de 100 milliards d'euros d'ONDAM hospitalier, de budget pour les hôpitaux. Donc, c'est pas...
Ça veut dire qu'il faut changer de logiciel.
Oui,
faut changer
mais bien sûr, ça veut dire qu'il y a des problèmes d'organisation qui sont absolument majeurs. Mais d'organisation, d'ailleurs, pas simplement l'hôpital. Je répète des choses que chacun connaît et que vous, Fabien, d'ailleurs, vous connaissez par cœur sur la bureaucratie de l'hôpital, sur... voilà, tout ça est très sur les excès de la T2A, enfin tout ça est parfaitement documenté, mais plus globalement, on a un système de santé qui historiquement a été très centré sur l'hôpital et il faut absolument qu'on étende la médecine de ville, qu'on donne, et on en parlera j'espère dans quelques instants, beaucoup plus de tâches aux officines par exemple, aux pharmaciens qui sont... Donc vous voyez, il faut qu'on déconcentre
pas utopique,
un peu l'activité.
Non, je crois que d'ailleurs... dizaines d'années qu'on essaie de changer les choses.
Oui, on l'a pas fait. Et puis après, il y a un autre sujet qui moi me passionne, alors qu'il là pour le coup est beaucoup plus en amont, mais je trouve qu'on a des leviers très importants là-dedans, c'est le sujet de la prévention. Voilà. Ou alors là, la prévention en matière d'activité physique, d'alimentation, etc.
Je rappelle qu'on est les derniers de la classe.
Et exactement. Et là aussi, en fait, on voit des choses qui bougent. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, Fabien, mais le président de la République avait annoncé pendant sa campagne électorale qu'il rendrait obligatoire dans les écoles une demi-heure d'activité physique par jour pour commencer la journée. Je faisais le point hier avec le ministère des Sports. Mais ça se déploie très bien. 85% des écoles arrivent à faire pratiquer ça, c'est bien. Enfin voilà,
bien
donc, il y a comme des
prévention,
choses.
Prévention, sport, le sport fait partie de la prévention.
Mais bien sûr.
Sûr,
donc il y a des choses qui avancent.
Alors pour rester dans l'utopie, on parle beaucoup d'autonomie sanitaire, mais dans un contexte mondialisé, bidirectionnel, est-ce que c'est possible d'être.
Oui. Alors en fait, c'est le sujet de la réindustrialisation et plus généralement de la réindustrialisation en santé. Donc notre sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour garder des usines, mais surtout pour faire revenir des usines dans quel secteur, dans quel domaine, etc. Alors quand on regarde la réindustrialisation en France, globalement, il est clair qu'il se passe quelque chose, parce que on a baissé la fiscalité sur le capital, sur les entreprises, parce qu'on a assoupli le droit du travail. Donc vraiment, il y a quelque chose de positif qui est en train de se passer. Et moi, je l'ai vu par exemple à Choose Friends, donc la grande messe où le président de la République reçoit à Versailles les patrons d'entreprises étrangers. Et vraiment, ce qui se disait sur la France était absolument dithyrambique, vraiment le pays business friendly, pour parler en très bon français. Donc ça, je dirais que c'est le cadre général. Il se passe un petit truc. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de projets d'investissement. En matière de santé, pas encore.
Enfin, il y a quelques secteurs quand même qui semblent un peu déçus, par exemple l'industrie pharma.
Voilà, exactement. Vous avez tout à fait raison, parce que au fond, il y a des spécificités et des freins spécifiques à ce secteur qui n'ont pas été levés, comme la baisse des prix du médicament, comme les complexités pour faire les essais cliniques. Même si en matière d'essais cliniques, on n'est pas mauvais, mais enfin bon, on pourrait être bien meilleur. Les difficultés d'accès au marché en règle générale. Donc, on a encore dans le secteur de la santé un double discours, hein, c'est-à-dire quand on entend le président de la République, on a l'impression que ça y est, on va réindustrialiser en santé, que les freins sont levés. Et pour l'instant, ça n'a pas encore été fait. Je ne perds pas espoir parce que ça a été fait dans d'autres secteurs, mais pour l'instant, pour répondre précisément à votre question, force est de constater que dans les faits, on n'a pas énormément avancé.
Pour revenir à l'industrie pharma, c'est vrai que les gens ne savent pas que 75 à 80% des industries, ce ne sont pas les big pharma.
Bien sûr.
Ce sont des petites et moyennes entreprises souffrent.
Mais oui, qui souffrent énormément, parce que vous avez toute une industrie de sous-traitants, etc., qui participent aussi de l'autonomie et puis de l'emploi, notamment avec une présence assez forte dans certains territoires, Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Donc c'est très important de garder ce tissu. Mais pour garder ce tissu, il faut aussi avoir des big pharma qui investissent beaucoup en R&D, qui vont conserver leur localisation en France, qui vont pouvoir participer, j'y reviens, à des essais cliniques. Donc vous voyez, il faut traiter l'ensemble du sujet et arriver à traiter la santé, non plus seulement sous l'angle de la prise en charge et de l'organisation des soins, ce qui est évidemment fondamental, mais aussi, ce qui est un peu nouveau pour notre pays, du point de vue économique et industriel, notamment quand on réfléchit au prix. Ce qui commence à se faire un tout petit peu, mais enfin, c'est vraiment le début de quelque chose, mais pas plus.
À l'origine de quelques pénuries de médicaments, d'ailleurs.
Voilà, complètement. Alors ça, c'est dramatique et intéressant, parce que ça a fait prendre conscience aux Français, et donc au pouvoir politique, qui réagit quand les Français réagissent, au fond, ça a fait prendre conscience que il y avait des problèmes économiques et industriels qui pouvaient avoir des traductions très concrètes. Parce que quand on manque... Alors, je sais bien qu'on consomme beaucoup trop d'antibiotiques en France, donc c'est peut-être pas le bon exemple, et c'est vous le médecin, c'est pas moi. Mais enfin, en tout cas, quand on manque de médicaments, en règle générale, là, les gens se disent, il y a quand même quelque chose qui dysfonctionne.
Premier consommateur au monde d'antibiotiques, la France.
Ouais, de mémoire, 40% de plus que la moyenne des pays européens, etc. Donc bon, tout ça devrait être corrigé. Mais en tout cas, en matière de... D'ailleurs, c'est intéressant. En matière de médicaments, l'idée, puisque là, on va arriver dans le PLFSS 2024, on va reparler des prix de médicaments. Moi, l'idée, notamment, que j'essaie de, à laquelle j'essaie d'accoutumer les pouvoirs publics, c'est de dire peut-être un peu moins de médicaments en volume, parce qu'on en consomme beaucoup en France, mais avec des prix un peu plus attractifs pour faire de la R&D et pour produire en France.
On va un peu dans ce sens, non ?
Je pense que la réflexion, en tout cas, va dans ce sens.
Alors, pour revenir à l'hôpital rapidement, c'est vrai qu'il est confronté à un manque d'attractivité phénoménal. Mais il n'y a pas que l'argent.
C'est catastrophique. Mais c'est ce que je voulais vous dire. De toute façon, si avec l'argent, on aurait résolu nos problèmes, parce que maintenant, il y a de l'argent dans l'hôpital. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il est mal utilisé, parce qu'on a une gouvernance qui est d'une... Parce qu'en fait, si on va vraiment au fond du problème, je ne sais pas, vous êtes directeur financier, ou vous êtes directeur des ressources humaines, vous arrivez dans un hôpital avec plein de bonnes intentions, la vérité, c'est que vous ne pouvez rien faire. Voilà. C'est le fond du problème. Et donc, tant qu'on n'aura pas regardé ce problème en face, et qu'on n'aura pas un grand plan de simplification, de débureaucratisation, de dénormalisation de l'institution hospitalière, avec une gouvernance qui soit beaucoup plus entrepreneuriale, on mettra de l'eau sur du sable. Hein.
Et pour une fois, peut-être, de concrétiser cette collaboration ville-hôpital.
C'est fondamental. En 2024, il y a quand même des choses qui progressent. Je voudrais vous dire ça juste avant de conclure, parce que je trouve ça très intéressant. On va enfin pouvoir, en 2024, aller chez les pharmaciens quand on a mal à la gorge pour faire un test, un TROD, fait.
Ou alors pour les femmes,
parce que ça, c'est plutôt les femmes qui sont concernées par ça, si on a une suspicion de cystite. Donc les pharmaciens feront des tests, hein, c'est obligatoire, et délivreront ou pas des antibiotiques. Mais formidable! Alors je sais que je vais faire hurler les médecins qui regardent beaucoup votre émission, Fabien, j'en suis désolé, vous en êtes un, mais je trouve ça absolument formidable. Il faut aller vers ça. Des officines, il y en a partout sur le territoire.
Bien sûr.
Les médecins, moi, quand j'ai mal à la gorge...
Rassurez-vous, beaucoup de médecins partagent votre avis.
Tant mieux, c'est formidable. C'est une semaine pour avoir un rendez-vous chez le médecin, ça n'a pas de sens. Les femmes qui ont une cystite le week-end, c'est pire. Donc c'est formidable. Et là, bravo la France de faire ça après les autres. Mais enfin, au moins, on va le faire.
Évidemment. Juste pour terminer, l'intelligence artificielle dans le monde de la santé.
Oui, bien sûr.
Quel est
ça me passionne. Mais on parlait des médecins.
Votre regard d'économiste.
Pourquoi Pourquoi est-ce que les médecins, notamment généralistes, ne s'engagent pas plus, ne prennent pas plus à bras le corps le sujet de l'intelligence artificielle, qui est un outil qui va jamais se substituer aux médecins.
Condition de les
former. C'est pas le sujet. Toujours, oui. À condition de les former. Mais enfin, on peut aussi, enfin, je sais pas, si j'avais un cabinet de médecine générale, évidemment, je regarderais l'intelligence artificielle, j'investirais forcément pour en faire une espèce de partenaire. Donc, c'est absolument formidable. Il y a des gains de productivité derrière qui sont gigantesques. Ça aide au diagnostic.
Gain de temps.
Donc, gain de temps, exactement. Donc, c'est l'avenir. Et il faut que les professions et les syndicats dans le domaine médical, qui parfois sont un tout petit peu conservateurs, il faut qu'ils prennent ces sujets à bras le corps.
Merci Nicolas.
Merci Fabien.
Merci beaucoup. On se revoit quand? Vous revenez
quand?
Quand
vous voulez. Moi, je reviens. J'adore.
Bon, merci beaucoup Nicolas Bouzou. On va à présent accueillir Christophe Dallet, qui est le directeur de Anténor, leader dans le recrutement en santé.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Christophe Dallet, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous dirigez la société Anténor, qui est leader, un des leaders du recrutement santé. Anténor, c'est pas une start-up, hein?
Non, c'est pas une start-up, c'est un cabinet qui a 29 ans.
29 ans, ouais.
Ouais, qui a été créé à l'origine par d'anciens internes des hôpitaux. C'est un cabinet de 25 personnes, cabinet de recrutement spécialisé en chasse de tête.
Et qui vous a recruté? Alors, en 2013,
ouais. Et j'en suis le directeur depuis 2018. C'est un cabinet de 25 personnes et c'est un cabinet qui est spécialisé dans les sciences de la vie. Donc toute structure intervenant avec en bout de chaîne un patient.
D'accord, donc évidemment vous intervenez dans plusieurs domaines. Avec ces pénuries tous azimuts, vous avez un boulot de rêve, non? C'est un créneau fantastique.
Mais oui, tout à fait. Alors il y a le rêve et la réalité. Ensuite, si vous rêvez effectivement d'accompagner des candidats, des clients dans des recrutements à enjeux difficiles, compliqués, sur des marchés en tension, il n'y a plus qu'à vous réveiller, vous êtes dans notre réalité.
Bon, maintenant, à l'inverse aussi, peut-être le revers de la médaille, c'est qu'avec la crise économique, il y a peut-être moins de velléité d'embauche.
Non, alors on a deux segments essentiels. On a les industries de la santé, donc on va dire c'est les laboratoires pharmaceutiques, le dispositif médical, les activités d'analyse diagnostique, c'est les start-up. Et là, on est sur des marchés, je dirais, en tension. On est sur ce qu'on peut appeler une guerre des talents, qui peut être propre à d'autres marchés, mais là où effectivement on est en recherche de compétences rares et expertes et managériales. Et puis on a un autre segment qui est le soin, sur le recrutement de soignants, sur le recrutement de médecins, et où là on est sur un marché qui est structurellement pénurique et où effectivement le recours à des cabinets vise à pallier effectivement cette pénurie, cette rareté.
On va y revenir. C'est vrai que ces dernières années, le monde du travail a changé. Hein. Ça a même été un peu même majoré par la crise Covid. Côté un petit peu volatile, le côté mouvant des emplois, le turnover plus fréquent.
Oui, alors les.
Ça
les...
vous le constatez vraiment?
Oui, parce que les deux ont changé. En fait, les paradigmes de l'emploi ont changé. Moi, je suis d'une génération où il s'agissait de faire carrière dans une entreprise, où il fallait justifier des changements trop fréquents. Aujourd'hui, le paradigme de l'emploi, il a changé. Aujourd'hui, on est sur une société qui se voulait agile il y a quelques années, qui doit être liquide aujourd'hui et demain. Et on demande aux compétences d'avoir des parcours beaucoup plus courts, peut-être beaucoup plus apprenants, et où effectivement, l'absence de mobilité peut être considérée comme un défaut, alors c'était l'inverse pour la génération.
Alors qu'à l'époque, on restait 20 ans, 30 ans dans la même boîte.
Complètement. Et il y a cette flexibilité, je dirais, des compétences. Il y a aussi l'obsolescence des compétences. Mais c'est aussi un comportement candidat. Nous, on adresse un marché qui a de l'expertise, qui a quand même de la séniorité. Mais il n'empêche que les générations qui viennent sont des générations de mobilité. Sont des générations qui sont, je dirais, connectées extrêmement tôt. Qui sont capables.
Qui veulent privilégier aussi une certaine vie de famille, une vie privée.
Alors ça, oui, sur la génération, les générations nouvelles, on est sur des générations qui sont beaucoup plus mobiles que nous ne l'étions, beaucoup plus souples, beaucoup plus flexibles. Et quant à l'équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle, ça, je pense, ça reste une constante qui parfois fait défaut dans certains métiers qui sont très en tension, mais ça reste une constante de qualité de vie en globalité.
Alors, concernant, vous parliez de l'industrie pharma, comment vous vous placez? Vous travaillez à tous les niveaux?
Alors, on travaille, nous, exclusivement sur des communautés de compétences qui sont spécialistes. Donc, je vais un petit peu jargonner, mais on parlera d'activités de recherche et développement, on travaillera de pharmacovigilance, d'assurance qualité, de market access, de business development. On parlera également de postes dits exécutifs dans le jargon, qui sont des postes de direction. Donc là, on aura sensiblement toute la chaîne qui va de la conception, je dirais, d'un produit ou d'un service jusqu'à sa mise sur le marché et jusqu'à son usage. Et sur la partie soins, nous intervenons sensiblement sur l'ensemble des compétences, qu'elles soient médicales, soignantes et de direction transverse et direction d'établissement qui sont nécessaires à ces activités.
Alors, on a parlé tout à l'heure avec Nicolas Bouzou du manque d'attractivité de l'hôpital. Mmh. C'est un domaine dans lequel vous sévissez aussi.
Alors c'est un sujet auquel on est confronté et je pense qu'effectivement dans l'entretien précédent il y a un certain nombre de constats, de raisons, de motifs, peut-être de solutions qui ont été abordées. On est, nous, fréquemment sollicités par des hôpitaux qui ont besoin effectivement de compléter leurs effectifs, soit gérés en termes de volume, soit en termes de spécialité médicale ou chirurgicale, pour répondre à leur mission, qui est une mission de santé dans un bassin de vie local.
Ouais, on a beaucoup polémiqué sur les boîtes d'intérim. Est-ce que vous êtes complémentaire?
Alors, polémiquer, tout peut être sujet à polémique.
Oui. Est-ce que vous arrivez, vous, d'avoir des liens avec des boîtes d'intérim, travailler avec quelques boîtes d'intérim?
Alors, nous, directement, non. Mais structurellement, oui. Parce qu'en fait, nous, depuis 2018, on est filiale du groupe Partner, qui est une des 10 premières ETI française, et je crois d'ailleurs c'est la plus ancienne historiquement, dont le siège est localisé à Olivet. Donc nous, aujourd'hui, on ne propose pas d'intérim médical, mais en revanche, l'intérêt d'être adossé à ce groupe nous permet, parce qu'on parlait bien sûr de projet professionnel, mais il faut aussi parler de projet de vie. Souvent, lorsque vous faites un choix professionnel, vous pouvez être amené à une mobilité, à déménager, et dans ces cas-là, on est accompagné par le groupe Partner, qui peut, dans d'autres métiers, trouver à accompagner qui l'époux, qui l'épouse, dans la recherche d'un emploi pour une relocalisation réussie.
Alors, enfin, pour ne parler que de la médecine libérale, c'est sûr qu'on ne peut pas trouver de médecin quand il n'y en a pas.
Certes.
Ou de pharmacien ou d'infirmier.
Certes. On est sur un marché, comme je disais, qui est structurellement pénurique.
C'est un des secteurs les plus compliqués pour vous, non?
Ah, je pense que si vous pratiquez la chasse de tête, je pense que le recrutement de médecins et de chirurgiens, vous êtes bien. Vous êtes pas mal. Au même titre sur les industries de santé, où il y a des expertises extrêmement fines, extrêmement pointues, où on est véritablement sur une guerre de talents. Donc on pourrait considérer que, au plan du marché, on est sur un marché de rêve. Et si vous rêvez la nuit d'accompagner des candidats, des clients dans des process de recrutement difficiles, compliqués, fins, il n'y a plus qu'à vous réveiller pour réaliser vos rêves.
D'accord. J'espère que nos téléspectateurs et auditeurs auront compris. C'est vrai que dans ce métier des professionnels de santé, qui confrontent à une grosse pénurie, les professionnels sont souvent sollicités par les mairies, par des institutions, par des administrations. Est-ce que vous êtes en contact avec ces...
Oui, alors ça nous arrive assez régulièrement soit de solliciter, soit d'être sollicité par des élus qui ont la responsabilité d'un bassin de vie. On le sait, le bassin de vie, c'est l'éducation, c'est la sécurité, c'est la santé. Et il y a des initiatives intéressantes, très volontaristes, parfois dans des communautés de communes, parfois dans des communautés qui ont des difficultés parce qu'un médecin généraliste part à la retraite et que toute une population d'usagers, de citoyens se trouve démunie dans son accès aux soins. Et il y a des beaux projets, Alors tous ne sont pas, certains font partie du rêve, certains sont réalisables et on est là pour ça.
Alors, on parle beaucoup évidemment d'intelligence artificielle. Il n'y a pas un moment où on ne parle pas d'intelligence artificielle. On dit que avec l'intelligence artificielle, des métiers vont disparaître, d'autres vont réapparaître. Vous êtes vraiment sensibilisé à cette révolution?
Alors, on y est sensibilisé. Et pour évoquer les marchés qu'on évoque aujourd'hui, je pense qu'ils sont très sensibilisés. Et c'est un bel outil. C'est la main qui fait l'outil. Je pense qu'il y a là, sur des marchés qui structurellement sont en tension, comme ceux du soin, il y a certainement un outil qui doit apporter un plus de performance et de libération d'un vrai temps médical pour les médecins. Ensuite, une machine...
Donc le monde du travail va vraiment être impacté par le système d'intelligence artificielle.
Sans aucun doute. Bon, ensuite, sur la santé, on est sur une activité humaine. Donc rien ne remplacera le médecin. Mais évidemment, plus il sera outillé avec des outils efficaces, plus il pourra se consacrer effectivement à son patient.
Je ne vais pas vous dire le contraire. Merci Christophe Dallet, patron d'Antenne Eure. On va changer de sujet.
Merci à vous.
Avec Verena Singman, représentante du groupe Love Honey Group.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé.
Verena Singman, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir sur le plateau de Check-up santé. Même si vous n'êtes pas vraiment sur le plateau, vous êtes là, vous êtes à Berlin. qui est un des deux sièges du groupe Lovonnet Group. En fait, je voulais vous inviter parce que il y a un événement cette semaine, c'est la journée mondiale de la santé sexuelle. Et d'ailleurs, l'OMS définit la santé sexuelle comme un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Évidemment, la sexualité est avant tout mentale, elle passe par le désir, la libido, l'excitation. Évidemment, il ne faut pas confondre sexualité et pornographie.
C'est vrai, c'est correct. Une bonne question pour commencer. Je veux juste m'introduire. Je suis Verena. Je suis en charge des relations publiques au monde du groupe Lavani. Avec le groupe, on est leader de l'innovation en matière de technologie du plaisir. On a plusieurs marques, peut-être que vous connaissez. Il y a le Womanizer, c'est pour les produits
pour les femmes. On va y revenir.
Excusez.
Il y a pas de problème. Donc, juste un peu d'historique, un peu de votre société. En fait, c'est vrai que elle naît de la fusion de pas mal de sociétés, et surtout la plus récente qui a fait de vous le leader mondial, c'est une fusion entre une société allemande et française. C'était Love Honey et Wo. Je crois que vous prononcez Love Honey.
Love Honey, oui. C'est vrai.
D'accord. Donc c'est une boîte qui est devenue une licorne.
Oui, c'est correct. On est les leaders mondiaux et notre société en ce moment est valorisée à plus d'un milliard d'euros. C'est la naissance de la groupe, c'était vraiment l'invention de Womanizer. C'était en 2014. C'est un inventeur allemand qui a entendu parler de ça s'appelle l'orgasm gap. Donc, ça veut dire qu'il y avait une étude qui a montré que pendant le sexe, 95% des hommes atteignent l'orgasme. Cependant, c'était seulement 65% des femmes. Donc, ils voulaient trouver une solution pour les femmes et pour les couples, dans le fond aussi, parce que si tout le monde atteint un orgasme, tout le monde est plus content, on sait ça.
Combien de collaborateurs dans votre société?
Maintenant, on est à plus de 900 employés au monde.
Et d'ailleurs, vous êtes présent dans le monde entier, d'ailleurs.
Oui, plus que 60 pays.
D'accord. Bon, évidemment qu'il y a des pays...
Et on travaille avec des... C'est ça, on a notre marque, mais on travaille avec des distributeurs partout au monde.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi, bon, évidemment, vous fabriquez des objets d'ordre sexuel, mais vous avez réalisé aussi beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'études épidémiologiques sur les habitudes sexuelles des Français, des Européens, etc.
Oui, c'est ça. Notre dernière étude annuelle, Womanizer, prouve que c'est indispensable, en effet, qu'il est apparu que l'inflation et la guerre en Ukraine ont eu un impact sur le stress des femmes, en France surtout, et qu'elles se sont moins masturbées que l'année d'avant. Donc, les femmes en France se masturbent en moyenne 48 fois par année. En 2022, c'était 63. Suivant la tendance mondiale, les femmes françaises se masturbent le moins souvent. Comparé aux hommes qui se masturbent 133 fois. Donc, c'est vraiment notre mission de libérer la parole autour de la sexualité et le plaisir et d'encourager les femmes et les hommes de prendre temps pour soi-même. Le bien-être.
D'ailleurs, j'encourage nos spectateurs à regarder toutes les autres études épidémiologiques que vous avez faites. C'est vrai que vos produits, ils s'adaptent beaucoup aux nouvelles technologies. Les produits sont maintenant connectés, ils utilisent peut-être même l'intelligence artificielle.
Oui, ça, on est en train de développer. Je peux pas encore beaucoup en parler, mais c'est vrai que notre ingénieur aussi font attention à l'intelligence artificielle et comment ça peut aider à vraiment personnaliser les sex toys aux préférences des gens. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde. Mais c'est vrai, on a aussi des produits qui sont connectés avec le cellulaire. Donc, même si on est un couple et pas dans la même chambre, mais peut-être dans deux pays, on peut contrôler les sex toys et se faire plaisir comme ça.
Bon, on peut dire que le monde vraiment est en train de changer. Merci beaucoup. Verena Singman, merci beaucoup. Vous êtes la représentante du Love Money Group. Voilà, c'est la fin de cette première émission de la 12e saison. On se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.